Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Vous imaginez à quel point il est facile de prendre la parole derrière quelqu'un qui vient de faire l'éloge du silence. Mais je vais quand même me risquer à poursuivre le cheminement que nous nous sommes fixés pour cette année et qui consiste, alors vous le savez maintenant, à étudier les psaumes. Donc je vais ce matin en étudier, c'est un bien grand mot, mais enfin en examiner avec vous trois, dont je ne vous donne pas les références et que je ne fais pas afficher, c'est volontaire, c'est parce que je voudrais que vous les écoutiez, que vous concentriez votre attention sur la lecture de ces psaumes, et que, autant que faire se peut, vous en mémorisiez le contenu. Alors je commence en lisant le premier, je vous rassure, il n'y a pas pour une heure de lecture, ils sont relativement réduits en volume. Donc le premier. Que le nom de Dieu soit béni, depuis toujours et pour toujours. Car la sagesse et la puissance lui appartiennent, c'est lui qui fait alterner les temps et les moments. Il renverse les rois et il élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et la compréhension à ceux qui comprennent. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres et avec lui demeure la lumière. À toi, Dieu de mes pères, mon action de grâce et ma louange, car tu m'as donné la sagesse et la force. Deuxième lecture. J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur, et le front haut grâce au Seigneur. La bouche grande ouverte contre mes ennemis, je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, il n'est personne d'illustre que toi. Il n'est pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne répétez pas tant de paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait, et c'est lui qui pèse les actions. L'arc des preux est brisé, ceux qui chancellent ont la force pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Ainsi la stérile enfante sept fois, et la mère féconde se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre, descendre aux enfers et remonter. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève aussi. Il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour les faire asseoir avec les princes et leur attribuer la place d'honneur. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il gardera les pas de son fidèle, mais les méchants périront dans les ténèbres. Car ce n'est pas par la force qu'on triomphe. Les adversaires du Seigneur seront brisés. Contre eux, dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera la terre entière, il donnera la puissance à son roi, et il élèvera le front de son oint. Et enfin, troisième et dernière lecture. Dans l'angoisse qui m'étreint, j'implore le Seigneur, il me répond. Du ventre de la mort, j'appelle au secours, et tu entends ma voix. Tu m'as jeté dans le gouffre au cœur des mers, où le courant m'encercle. Toutes les vagues et les lames déferlent sur moi, si bien que je me dis, je suis chassé de devant tes yeux, mais pourtant je continue à regarder vers ton temple saint. Les eaux m'arrivent à la gorge, tandis que les flots de l'abîme m'encerclent, les algues sont entrelacées autour de ma tête, je suis descendu jusqu'à la matrice des montagnes, à jamais les verrous du pays de la mort sont tirés sur moi, mais de la fosse tu m'as fait remonter vivant. Ô Seigneur mon Dieu, alors que je suis à bout de souffle, je me souviens et je dis « Seigneur », et ma prière parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Les fanatiques des vaines idoles doivent renoncer à leur dévotion. Pour moi, au champ d'action de grâce, je veux t'offrir des sacrifices et accomplir les vœux que je fais. Au Seigneur appartient le salut. Vous avez senti la force de ces textes. Et si vous avez, comme je vous y ai invité, essayé d'en tirer l'essentiel, ça tient en quelques mots. Premier texte, le Seigneur sait tout. Deuxième texte, le Seigneur peut tout. Et troisième texte, le Seigneur sauve. Alors, c'est déjà énorme quand on sait ça, quand on entend ça, mais je reconnais que vous avez à ce stade-là le droit de me dire « ça on le savait déjà ». Et pour la plupart d'entre nous, on le savait déjà depuis longtemps. Donc, faire le déplacement pour tenter de nous dire ça, bon, d'accord, les textes sont beaux, mais du coup, on se demande si on n'aurait pas préféré le triathlon. Alors, à ce stade-là, faut que je vous fasse un aveu. Et l'aveu que je vais vous faire, c'est que les psaumes que je vous ai lus ne sont pas dans les psaumes. Il y a, disons schématiquement, quatre catégories de psaumes en fonction du fait qu'ils sont circonstanciés ou pas. Alors, je m'explique. Il y a des psaumes qui ne sont absolument pas circonstanciés, première catégorie, c'est-à-dire on ne sait pas quand ils ont été écrits, par qui, pourquoi, comment, dans quelles circonstances, on n'en sait rien. Exemple, les psaumes 1 et 2. Les psaumes 1 et 2, impossible d'être enseigné sur l'auteur, sur les circonstances, etc. Deuxième catégorie, les psaumes qui sont circonstanciés. Si vous étiez là, la dernière fois que j'ai étudié un psaume, c'était le psaume 51. Donc le psaume 51, on sait très précisément, parce que l'entête nous le dit, que c'est David qui a écrit ce psaume dans les circonstances particulières de son idylle avec Bathsheba et de ce qu'il a entendu du prophète lui faire comme reproche pour s'être débarrassé de manière radicale du mari de la femme qu'il a désirée. Ça, c'est circonstanciel. Il y a, dans une troisième catégorie, des psaumes qui sont, j'allais dire, tellement circonstanciés qu'ils sont à la fois dans le livre des psaumes et dans leur contexte historique. Si vous prenez le psaume 18, vous retrouvez exactement le texte du psaume 18 dans le livre des rois. Je crois, premier livre des rois. Parce que il a paru intéressant, parce que l'élaboration de la Bible est elle-même inspirée. Donc il a paru intéressant de non seulement avoir ce texte dans un recueil de chants, parce que les psaumes sont des chants de louanges, donc dans le recueil de louanges figure ce texte, mais ça n'a pas paru suffisant de dire « il a été écrit dans telle circonstance », il a été, alors, matériellement remis ou laissé dans son contexte, ce qui fait qu'il est deux fois dans la Bible. Et puis, il y a une quatrième catégorie, celle à laquelle je m'intéresse ce matin, parce que je me suis dit, allez, quitte à parler des psaumes tous les dimanches depuis 6 mois, on va essayer de faire preuve d'originalité, donc l'originalité en ce qui me concerne, pardon du peu d'effort que j'ai fait, mais j'étais en vacances, c'était de choisir des psaumes qui ne sont pas dans les psaumes. L'intérêt d'avoir laissé des psaumes, alors j'ouvre une parenthèse technique pour dire que on sait quand même que c'est des psaumes, parce qu'on pourrait dire, oui, mais si c'est au milieu du texte, comment on sait que? Alors, sans faire un cours de linguistique, de la même manière que nous, quand on lit du français, on sait si c'est de la prose ou de la poésie, parce qu'il y a des rimes, un rythme, etc. Enfin, il y a une codification de la poésie, donc on sait quand c'est de la poésie et on sait quand ça n'en est pas. C'est pareil en hébreu. C'est-à-dire que alors pas pour les mêmes raisons, il n'y a pas de rime, mais il y a une accentuation spécifique, bref, on sait que c'est de la poésie, on sait que ce sont des chants, alors de la poésie chantée, hein, c'est le principe des psaumes, et c'est toujours tourné vers la louange, donc c'est construit d'une manière spécifique. Et donc, il a été délibérément choisi par celui qui a élaboré la Bible, de laisser certains psaumes dans leur contexte, de ne même pas les mettre dans le livre des psaumes. Alors pourquoi? Pour une raison simple, c'est que, grâce au contexte, on en apprend beaucoup plus sur le sens. Parce que quand vous avez un psaume dans le livre des psaumes, bah vous lisez votre psaume, et puis vous en tirez le sens que donne le texte. Point. Ce qui est déjà pas mal. Mais il y a des psaumes qui méritent d'être éclairés en permanence par leur contexte, parce que le contexte renforce considérablement le message. Alors, ce sont les trois psaumes que j'ai lus ce matin, et le moment est venu pour moi de vous dire d'où je les ai sortis. Peut-être, alors ceux d'entre vous qui ont l'habitude des textes auront certainement reconnu, le premier des psaumes, c'est le psaume de Daniel. C'est le psaume de Daniel qui, alors je situe le contexte, justement, parce que le contexte va nous éclairer. Donc, Dieu sait tout, c'est le résumé, c'est le substrat du psaume qu'on a lu. Et Daniel élabore ce psaume en disant « Dieu sait tout » dans des circonstances particulières. C'est la première vague de déportation, mais bon, peu importe. Il est donc à la cour de Nabucodonosor. C'est un roi de Babylone bien connu. On sait que on connaît, même par l'histoire extra-biblique, on connaît très bien la vie de Nabucodonosor. Et pour vous résumer ce qui précède le psaume, donc c'est le début du livre de Daniel, Nabucodonosor fait un rêve. Et il veut comprendre son rêve. Et donc, comme il y a toujours à la cour des rois à cette époque-là, des magiciens, des devins, des astrologues, et, hein, il convoque tout ce que sa cour compte de, justement, de voyants divers et variés, et il leur dit « Expliquez-moi le rêve que j'ai fait. » Eux, ils sont payés pour ça, donc pas de problème. Tu nous racontes ton rêve, et on va te donner l'explication. Ils passaient leur temps à ça, et donc... exercice habituel pour eux, sauf que Nabucodonosor, qui est pas complètement un imbécile, leur dit « Non, alors, pour être sûr que vous me racontez pas n'importe quoi, vous allez, vous, me raconter le rêve avant de m'en donner l'explication. » Donc là, du coup, ça devient compliqué, parce que il a compris que en faisant ça, ben, il faisait la différence entre les charlatans et les éventuels véritables devins. Parce que avant de donner l'explication du rêve, ce qui est toujours relativement facile, hein, c'est toujours facile d'inventer. Par contre, dire à quelqu'un ce qu'il a rêvé la nuit d'avant, ça s'invente pas, c'est le cas de le dire. Et donc, ils lui disent, mais attends, ça c'est pas possible, ça on sait pas le faire. La règle, c'est que tu dis quel est ton rêve, et nous, on interprète. Ça c'est simple. Enfin, ça c'est à notre portée. Et ils insistent en disant, dire à la fois le rêve et l'interprétation, ça c'est à la portée d'aucun humain. Et donc ils insistent jusqu'au point où Nabucodonosor dit bon vous vous foutez de moi. Et à cette époque-là, quand on a surtout quand on est le roi et qu'on a l'impression que d'être pris pour une bille, c'est vite plié, c'est-à-dire qu'il commence à éliminer. Donc il décide, il décrète l'élimination de tous les devins, charlatans et autres. Voilà. Et avant que l'élimination est en route, et avant qu'elle arrive à son terme, Daniel, avec ses trois compagnons, reçoit de Dieu la révélation du rêve de Nabucodonosor et de son explication, donc il dit stop, arrêtons le massacre, et il va devant Nabucodonosor pour dire « Voilà quel a été ton rêve, et voilà l'explication qu'il doit contenir. » Et effectivement, le rêve, c'est bien ce que Nabucodonosor a pensé dans son sommeil, et l'explication, c'est une explication. Alors, je rentre pas dans le détail du rêve lui-même, parce que c'est pas mon sujet, puis ça m'emmènerait trop loin, du rêve lui-même et de l'explication sur les royaumes, etc. Mais Daniel va faire défiler devant Nabucodonosor un pan d'histoire considérable, et il va louer Dieu, puisque le psaume c'est louange, hein, Hillel. Il va louer Dieu en disant « Tu es le Dieu qui sait. » Y compris ce qui est caché. Alors, ça nous enseigne quoi? Ça nous enseigne que, bon, Dieu c'est le Dieu qui sait, ça on en est conscient. On est conscient que la puérilité de nos ancêtres communs. On a tous des ancêtres communs, au moins deux, Adam et Ève. Et vous vous souvenez que, très, très naïvement, parce qu'il faut quand même en tenir une sacrée couche, ils s'étaient planqués derrière les arbres, en disant, en s'apercevant, après avoir commis la faute que Dieu, contre laquelle Dieu les avait prévenus, après avoir commis la faute, ils se sont aperçus qu'ils étaient à poil, et donc ils ont fait, avec des feuilles de figuier, ils se sont fait une espèce de pagne, mais ils ont vu que le compte n'y était pas, donc ils se sont planqués dans la forêt, enfin dans le jardin, derrière les arbres du jardin, et Dieu les a appelés, enfin a appelé Adam en disant « Alors t'es où ?» Et bon, fébrilement, bon, effectivement, même si tout ça est imagé, il faut quand même être sérieusement atteint pour penser que, en se planquant derrière un arbre, Dieu ne va pas nous voir. Bon. Donc, quand on dit Dieu sait tout, oui, quand t'es planqué derrière un arbre, il sait où tu es. Ah, d'accord. Ceci dit, même si cet élément-là est au ras des pâquerettes, moi, je fais une observation. Alors, je vous la fais pas à vous, je me la fais à moi. C'est que si j'étais en permanence conscient, c'est-à-dire si je gardais présent à l'esprit le fait que Dieu sait tout, déjà, est-ce que je ferais tout ce que je fais si je savais que Dieu me regarde à n'importe quel instant de ma vie? Est-ce que je dirais tout ce que je dis si je savais que Dieu m'écoute et m'entend à n'importe quelle seconde de mon existence? Est-ce que je penserais tout ce que je pense si je savais qu'il a accès à mes pensées les plus secrètes et les plus profondes? C'est déjà pas sûr. C'est déjà pas sûr. Donc, s'il y a une première leçon à tirer au niveau zéro de l'intelligence, du fait que Dieu sait tout, c'est-à-dire voit tout, entend tout et connaît tout, y compris jusque dans mes pensées, si je peux garder ça présent à l'esprit, ne serait-ce que la semaine prochaine, mon comportement sera sans doute pas le même, je vous le confesse. Mais, et c'est l'intérêt de laisser le psaume inséré dans son contexte, là ça va plus loin. Ça va plus loin parce que quand Daniel dit « Seigneur, je te loue parce que tu es le Dieu qui sait », ça veut dire que Dieu vient de lui donner l'accès, non pas à ce que Nabucodonosor dit, fait ou pense de manière consciente, mais à son inconscient. Alors, je ne vais pas profiter de l'absence de Gaël pour vous faire un cours sur l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais et je vous conseille sa lecture, c'est le titre d'un livre de Sigmund Freud, dont tout le monde a entendu parler. D'ailleurs, il y a un détail intéressant, c'est que, alors je ne vais pas vous raconter le livre de Freud, mais il dit dans l'interprétation des rêves que quand un patient raconte un rêve à son thérapeute, il fait ce qu'on appelle une élaboration secondaire, alors c'est des termes techniques hein, de psychanalyse, mais il fait ce qu'on appelle une élaboration secondaire, c'est-à-dire que c'est pas vraiment son rêve qu'il raconte, c'est son rêve passé au filtre de son conscient, de sa conscience. C'est-à-dire que comme il est éveillé quand il raconte son rêve, et on peut faire cette expérience-là aussi, on réinterprète déjà le rêve en le racontant. Si au petit déjeuner le matin, vous dites à votre conjoint « Tiens, j'ai rêvé de ça », c'est pas exactement votre rêve, c'est le rêve déjà réinterprété par le fait que au moment où vous le racontez, vous êtes conscient. Bon, parenthèse fermée. Et c'est pour ça que la Bible est très en avance sur Freud, c'est que Nabucodonosor, c'est pas lui qui raconte son rêve, du coup, puisque lui, il a dit « Moi, les charlatans, ça va bien ». Donc, c'est Daniel qui raconte à Nabucodonosor ce qu'il a rêvé, et là, du coup, le risque, c'est pas un risque, c'est une réalité, l'élaboration secondaire est éliminée. Bref, ce qui est intéressant, c'est que quand on dit « Dieu sait », et ça, il faut l'avoir présent à l'esprit, ça veut dire « Dieu sait ce que je sais de moi, mais il sait aussi ce que j'ignore. Dieu a accès à mon inconscient. Dieu a accès à ce que je ne sais pas de moi-même. Et dire à Dieu « Je te loue parce que tu sais », c'est lui dire « Je te loue parce que tu sais de moi des choses que moi-même j'ignore. » Et ça, pour les croyants, c'est sécurisant. Seigneur, tu as accès à mon inconscient, à une part de moi auquel je n'ai pas forcément accès, ou en tout cas de manière très limitée. Toi, tu sais tout de ça. Tu sais tout de ça, et cerise sur le gâteau, parce que Daniel ne se contente pas de lui dire, bah voilà ce que tu as rêvé, donc Dieu a accès à ton inconscient, donc adore-le. Si Nabucodonosor se met effectivement à la fin de l'épisode à adorer Dieu, c'est aussi parce que Daniel lui révèle le sens des choses cachées. Le sens dans l'histoire. C'est-à-dire, voilà à quelle place tu te situes. Alors, encore une fois, sinon ça prendrait trop de temps, je ne lis pas, mais faites-le. Donc, c'est évidemment le début du livre de Daniel. Faites-le chez vous si vous en avez le temps. Nabucodonosor va se retrouver situé dans l'histoire en disant « Voilà ce que tu es en train de vivre, voilà ce que représente ton règne, et voilà ce qui va se passer après toi. » C'est-à-dire, voilà ce que ton règne va déterminer pour la suite avec les royaumes qui vont se succéder. Autrement dit, alors que l'être humain, pas écumer les livres philosophiques de la Bible, mais seul celui qui a accès au temps, a accès au sens. C'est le texte qui dit il y a un temps pour tout, un temps pour mourir, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour construire, un temps pour démolir, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Ça ne veut pas dire qu'il faut bien organiser son emploi du temps. Ça veut dire que si on concentre dans le temps des réalités contraires, on perd le sens. Ça n'a pas de sens de construire un mur et de le démolir aussitôt. Ça n'a pas de sens de donner à quelqu'un un baiser et une baffe dans la même seconde. Ça n'a pas de sens de faire à la fois la guerre et la paix, enfin bon, etc. Ça n'a pas de sens d'aimer et de haïr si c'est concentré au même moment. Mais les choses prennent leur sens, c'est-à-dire construire un mur et le démolir à 40 ans d'intervalle, ça peut avoir du sens. Et donc, le sens, alors c'est le cas de le dire, la signification de ce texte, c'est de dire que seul celui qui maîtrise le temps maîtrise le sens, et Dieu qui seul maîtrise en totalité le temps, maîtrise en totalité le sens. Et donc, non seulement Dieu a accès à l'inconscient de Nabucodonosor, mais Dieu a aussi la possibilité, parce qu'il maîtrise le temps et donc le sens, de donner la signification et la place que Nabucodonosor va avoir dans l'histoire. Et bien, ce que Dieu peut faire pour Nabucodonosor, il peut le faire pour chacun de nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit, dont c'est aussi la mission. Je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami, parce que un serviteur, il ne sait pas ça. Il n'a pas accès à ça. Son maître ne lui donne pas accès. Mais si ça n'est plus un serviteur, mais un ami, alors le serviteur sait ce que fait son maître. Et donc, quand on dit « Dieu sait » dans le psaume de Daniel, ça veut dire « Il sait et il peut me dire, parce qu'il m'a donné son esprit, ce qu'il y a en moi que j'ignore, et quel est le sens, c'est-à-dire quelle est ma place dans l'histoire. » Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. On résume, j'allais dire, de manière humoristique, la philosophie à « D'où venons-nous »,« D'où venons-nous »,« Allons-nous », enfin, « Qu'est-ce qu'on fout là ?» et « Que fait la police ?» Mais l'interrogation profonde de chaque être humain, c'est de se demander quel sens il a, quel sens à sa vie, quel sens à cette période de temps qui sépare sa naissance de sa mort. Eh bien, Dieu sait et peut nous révéler ça. Et c'est pour ça que le psaume de Daniel est laissé dans son contexte. On va passer au deuxième. Le deuxième, pour ceux qui ont une pratique assidue des textes bibliques, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le psaume d'Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Donc ça nous remonte dans des temps immémoriaux. Alors, Anne, c'est la femme d'un homme qui en a deux. Deux femmes. Et, pas de bol, la première femme, elle a des gamins en pagaille, à chaque fois que, bon, un gamin. Et elle, zéro, nada. Alors, c'est pas perçu comme nous, dans notre culture et dans notre civilisation, on le perçoit aujourd'hui. La stérilité, c'est une malédiction. Cette femme est maudite. Et évidemment, elle est effondrée. Pourquoi Dieu m'a-t-il maudite? Ça en fait des interrogations au fil des années. J'ai connu et je connais, mais je pense que c'est notre cas à tous, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Le désir d'enfant, quand on ne peut pas en avoir, ça devient obsessionnel. Surtout quand, et c'est le texte qui nous le dit, c'est pas moi qui l'invente, l'autre, qui a sa marmaille, elle se paye sa tête à chaque fois qu'elle peut. Non, elle va foutre derrière des gosses. Non. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Et Anne se lamente, et Dieu entend la lamentation d'Anne, et Anne va finalement avoir un enfant, mais pas avant d'avoir dit, dans son désespoir, d'avoir dit à Dieu, parce que ça fait des années, peut-être des décennies, que je te demande un enfant, et puis évidemment, l'horloge biologique, on sait ce que c'est. Et donc, plus ça va et moins ça devient réaliste d'y croire encore. Et elle finit par dire, Seigneur, si tu réponds à cette prière, si tu réponds à mon désir de maternité, alors cet enfant, je te le donne. Il ne sera pas à moi, il sera à toi. Ça va jusque là. Mais fais de moi une mère. Et sa lamentation est telle, vous connaissez l'épisode, que quand le grand prêtre qui s'appelle à cette époque, enfin le prêtre qui s'appelle à cette époque, on est au tout début du... La liturgie n'est évidemment pas ce qu'elle sera dans la suite des temps. Donc il s'appelle Élie. Il la voit se lamenter et c'est tellement pathétique qu'il pense qu'elle est ivre. Et il lui dit, il la vire du temple en lui disant, va cuver ailleurs. Même dans le temple de son Dieu, elle n'est pas accueillie, elle n'a pas sa place. Et pourtant, Dieu va répondre à la prière d'Anne. Et Dieu va lui donner un enfant. Et elle va tenir sa promesse, elle va dire, j'avais promis que cet enfant serait à toi. Eh bien, il n'est pas à moi, je te le donne. Et il vivra dans le temple, et ce sera Samuel. Alors, Dieu peut tout, mais Dieu peut tout dans ce contexte-là, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que... Alors, je vais... Pardon Luc, mais moi, je me demande parfois, mais je pense que je suis pas le seul dans mon cas, pourquoi certaines choses se passent, pourquoi Dieu permet certaines choses. Et bah, par exemple, en ce qui concerne la santé de certains d'entre nous, bien sûr que je pense qu'on est plusieurs à avoir eu cette pensée-là, pourquoi, Seigneur, tu permets ça? Pourquoi tu permets que certains d'entre nous soient atteints par le mal de cette manière-là, de manière aussi violente. Même si tu les guéris, même si cette guérison est miraculeuse, est-ce que il aurait pas tout simplement mieux valu que tu les maintiennes en bonne santé et que tu ne permettes pas au mal de les atteindre? Moi, j'avoue que, a priori, je suis reconnaissant d'avoir toujours été en bonne santé et, ben, dire, à la limite, je préfère ça à avoir connu une maladie grave dont Dieu m'aurait guéri miraculeusement. C'est peut-être mieux d'être finalement en bonne santé. Et ce que ce texte nous apprend, c'est que pas du tout. Pas du tout. Parce que, de la même manière que on aurait pu dire, Ben, plutôt que de donner satisfaction à Anne sur le tard, parce que elle a donné Samuel au temple, enfin à Dieu, mais le texte s'empresse de nous dire que derrière, elle en a eu d'autres. Une fois que la machine était en route, je dis pas que ça s'est plus arrêté, mais enfin, elle a eu aussi son contingent de... Elle a pas été complètement privée d'enfants à son domicile. Mais on pourrait dire tout ça pour ça. Rendre une femme stérile pour finalement la rendre féconde après, une fois qu'elle se soit lamentée, pleurée, priée, à quoi bon ? Ben, suffit de regarder. Il suffit de regarder l'histoire. Celle qui était l'autre femme, celle qui était féconde depuis le début, elle a eu une marmaille dont personne n'a gardé la trace. On s'en fiche. Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas marqué l'histoire. Si Anne avait été aussi fertile dès le départ que sa co-épouse, bah ce serait pareil. Elle n'aurait laissé aucune trace. Sauf que là, ce qui en sort du fait que Dieu ait, dans un premier temps, entre guillemets, stérilisé Anne pour ensuite la rendre féconde, bah c'est que Anne a eu la possibilité, seulement comme ça, d'entrer dans le projet de Dieu, qui était de donner un prophète à Israël. Et je vais pas vous dire, parce que vous le savez aussi bien que moi, tout ce qu'a fait Samuel. Mais imaginez la Bible sans Samuel, enfin l'histoire biblique sans Samuel, ça ne serait plus la Bible. Et donc, ce que je suis bien obligé de constater, c'est que quand Dieu permet quelque chose a priori de néfaste, la stérilité, encore une fois, c'est une malédiction. Comme la maladie, comme n'importe quelle manifestation du mal, ça peut aussi, souvenez-vous de la parole de Jésus, à propos, et c'est aussi le titre d'un bouquin de mon philosophe préféré, Kierkegaard, qui a écrit « La maladie à la mort ». Cette maladie n'est pas pour la mort. Elle est pour la gloire de Dieu. Certaines choses, et si ce psaume d'Anne n'était pas dans son contexte, on n'imaginerait pas que quand elle dit « Dieu peut tout », ça veut dire ça. Certaines choses qui sont maléfiques à première vue sont en réalité pour la gloire de Dieu. Alors, moi je regarde nos malades avec un autre œil, en me disant moi je suis, dans l'image que je viens de prendre, moi je suis la femme féconde, c'est-à-dire bah, le fait que j'ai été bien portant, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, je suis reconnaissant à Dieu pour ça, mais ça laissera aucune trace dans l'histoire. Maintenant, celui qui, avec l'aide de Dieu, et par miracle, aura vaincu la maladie, lui, il sera peut-être plus intensément dans le plan de Dieu que je ne le suis. Alors, quand on dit Dieu peut tout, ça veut aussi dire ça. Et, troisième et dernier, psaume, vous l'aurez reconnu celui-là sans doute, c'est le psaume de Jonas. Jonas, dont chacun sait que Dieu lui demande d'aller à Ninive pour annoncer la destruction de la ville, et que il se met immédiatement en route dans la direction opposée. Parce que, en question, alors il explique pourquoi après, mais il fait, lui, le contraire de ce que Dieu lui demande, donc ça lui vaut quelques ennuis, notamment le fait que quand il prend un bateau pour se tirer le plus loin possible, Dieu déclenche une tempête, qui fait dire à tous ceux qui sont sur le bateau, il y a une explication là, parce qu'une tempête comme ça, ça vient pas de nulle part, donc il cherche qui est... Encore une fois, c'est une question de malédiction. Qui porte la malédiction qui a attiré la tempête? Et donc Jonas finit par leur dire, bah, c'est moi, foutez-moi à l'eau et vous verrez, ça va se calmer, ce qu'effectivement, ils font, hop, plouf. Et la tempête se calme, donc les autres sont tranquilles, et puis l'autre, il se retrouve au milieu de l'eau, et un grand poisson l'engloutit, plouf, et il y passe 3 jours. J'ai eu longtemps tendance à considérer ça comme un mythe, parce que quand même, un mec qui se fait bouffer par un poisson et le poisson qui le recrache intact et donc vivant au bout de 3 jours, ça me paraissait pas trop crédible. Alors, il y a des éléments qui me font, alors aussi taré que je puisse vous paraître, mais j'assume, il y a des éléments qui me font penser que c'est pas si mythique que ça comme récit. Premier élément, et là je vais faire plaisir à tous ceux qui, parmi nous, je les respecte, prônent une lecture littérale des textes bibliques. La première des choses, c'est que Jonas, il a vraiment existé. Jonas, on n'en parle pas que dans le livre de Jonas. On en parle ailleurs. On en parle ailleurs, alors si vous voulez la référence, j'ai la référence. Le point, hein, je n'ai rien dit de ce que j'avais noté, mais c'est pas grave. C'est pas bien grave, pas bien grave. Voilà. Alors, voilà. Donc, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 14, le verset 25, vous trouverez la mention d'une prophétie de Jonas qui s'est réalisée, dont on n'a absolument pas gardé la trace de la prophétie, mais peu importe, ça montre que Jonas est un personnage historique. Le deuxième élément, c'est que quand Jésus, parce que vous savez quand même que Jésus dit à ses contemporains, vous demandez un signe, moi un signe, c'est bien écrit comme ça dans le texte, je ne vous donnerai pas d'autre signe que celui de Jonas, c'est-à-dire que de la même manière que Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson, moi je resterai 3 jours dans les entrailles de la terre avant de ressusciter. Bon. Si Jésus prend ça au sérieux, et quand il n'en parle pas comme d'un mythe, ce qui pourrait tout à fait se concevoir. Il aurait pu dire, vous savez, dans l'histoire qu'on raconte aux enfants, parce que ça fait très récit pour les enfants, le poisson qui bouffe le mec 3 jours, puis pendant 3 jours, l'autre, on pourrait très bien en faire un dessin animé, et puis même maintenant avec les effets spéciaux, un vrai film. Mais Jésus n'en parle pas comme ça. Jésus n'en parle pas comme d'une histoire mythique, il en parle comme d'une réalité. Et puis le dernier élément, il est tout récent, on était en vacances la semaine dernière. Moi, j'étais en vacances la semaine dernière, et j'ai visité un aquarium, et je n'y connais rien en poissons, crustacés, machin, et j'ai appris 2 choses. D'abord, j'ai vu une mâchoire de mégalodon, c'est ça ? Voilà, j'ai vu une mâchoire de mégalodon, qui est, à ce jour, dans ce qu'on connaît, parce qu'on n'a pas fini de découvrir des choses, mais le mégalodon, c'est, sachez-le, l'animal le, à la connaissance scientifique d'aujourd'hui, l'animal le plus gros que la Terre ait jamais porté, enfin la mer, en l'occurrence pas la Terre, mais la mer, mais enfin, que la planète ait jamais porté. C'est, enfin, alors, et je me suis aperçu que je rentrais parfaitement, parce que moi, quand je pense se faire bouffer par un... Évidemment, nous, quand on pense se faire bouffer par un poisson, on pense l'île de la Réunion, les plages, les requins, et on n'est pas mangé en un seul morceau. Donc, c'est une jambe par-ci, un bras par-là, et la tête et le bec, alouette, bon. Et donc, on se dit, même si 3 jours après, le poisson recrache, il recrache des bouts de viande, quoi. Hein, on est d'accord. Mais je vous assure que une mâchoire de mégalodon, ça peut largement laisser passer un être humain sans le couper en morceaux, d'une part. Et d'autre part, j'ai vu un poisson qui s'appelle un ange des mers, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, vous pouvez vérifier tout ça, c'est sur Internet, hein. J'ai vu un ange des mers qui a cette manie, juste pour se marrer comme ça, il avale des poissons complètement blocs. Alors un peu plus petit que lui quand même, il avale des poissons et il les recrache, il les bouffe pas, il les recrache, mais juste comme ça, apparemment pour le fun, et il les recrache vivants. Et donc le poisson, une fois qu'il est ressorti, il repart. Donc, comme on ne sait pas aujourd'hui si le mégalodon avait pas les mêmes pratiques que l'ange des mers, on peut se dire que c'est pas complètement inconcevable, alors prenez-moi pour un fou si ça vous chante, mais moi je trouve qu'il n'est pas complètement inconcevable que un être humain ait été avalé puis recraché par un poisson. Après, ça ne veut pas dire, je fais une concession, ça ne veut pas dire que tout dans ce récit est littéral. C'est pas par exemple pour rien qu'on parle de 3 jours. Et pas 3, enfin pas 2, pas 4. C'est pas pour rien non plus qu'il y a 12 000 habitants à Ninive. Enfin bon, bref, il y a dans la symbolique des nombres des choses qu'il faut interpréter.
Mais tout ça pour dire quoi? Alors, tout ça pour dire que Dieu sauve. D'accord. Dieu sauve. Alors, pourquoi est-ce que on laisse ce récit dans son contexte et pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis ce psaume à la suite des 150 qu'on connaît déjà? Parce que le psaume, Jonas le dit quand il est dans le ventre du poisson. Alors là, je vais vous le lire, parce que si on n'y prend pas garde, on se dit, bah oui, bien sûr, le poisson a avalé Jonas, Jonas a prié, Dieu a fait en sorte que le poisson recrache Jonas vivant, et du coup, Jonas, tout content d'être sauvé, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il l'a échappé belle, il a écrit un psaume pour te dire, Seigneur, je te loue de ce que tu m'as tiré de la gueule du poisson. Or, pas du tout, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Donc, le psaume que je vous ai lu se termine par « Au Seigneur appartient le salut », verset suivant. « Alors, le Seigneur commanda au poisson, et aussitôt le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. » Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand Jonas a dit à Dieu « Je te loue, Seigneur, parce que tu me sauves », il n'était pas du tout tiré d'affaire. Il était même au pire moment de l'épisode, c'est-à-dire dans le ventre du poisson. Et donc, dire « Je verrai encore le temple », enfin, je vais pas vous reprendre tout ça, mais « De la fosse, tu m'as fait remonter vivant, ô mon Dieu, et ma présence parvient jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint », pour moi, au champ d'action de grâce, je veux offrir des sacrifices, etc. Pour autant, alors je suis chassé de devant tes yeux, mais pour autant, je continue à regarder ton temple saint. Ça veut dire quoi quand on est en train, quand on vient de se faire bouffer par un poisson? Ça s'appelle de la foi. Ça s'appelle de la foi. C'est pas, Seigneur, je te loue parce que tu m'as sauvé. C'est, Seigneur, aussi, mais Seigneur, je sais que tu vas me tirer de là. Alors du coup, ça éclaire la louange d'une toute autre lumière. Il n'y a pas que Jésus qui peut s'identifier à Jonas. Jésus, on sait, comme Jonas est resté trois jours dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme, etc. Et vous n'aurez pas d'autre signe. On est tous des Jonas. C'est-à-dire, on a tous pris la direction opposée, exactement opposée à celle que Dieu nous avait demandé de prendre, et ça dure depuis le jardin d'Éden. Et la sanction, c'est que on va être avalé par la mort. Mauvaise nouvelle, il y a des enterrements tous les jours, et un jour, chacun de nous sera la star de la cérémonie. On va tous y passer. Le poisson qui s'appelle la mort va nous avaler tôt ou tard. Est-ce que, dès maintenant, on est capable de dire, Seigneur, je te loue, parce que tu m'as tiré de là? Est-ce qu'on a cette confiance en Dieu, que, bien sûr, que la mort va nous avaler, mais la mort va nous vomir? L'Éternel, par là, commanda au poisson, et aussitôt, le poisson vomit Jonas sur la terre ferme. C'est Dieu qui a ressuscité des morts, Jésus. Et comme Jésus a été ressuscité des morts par son Père, nous serons ressuscités d'entre les morts, nous serons vomis par la mort qui ne pourra pas nous garder. Est-ce qu'on est capable, dès à présent, de louer le Seigneur pour ça? Ça s'appelle la foi. Et donc, Dieu sait tout, Dieu peut tout, et Dieu sauve. Ça prend un éclairage tout particulier, et là, il y a toute la matière qu'on veut à la louange pour chacun de nous. Mais encore une fois, je ne veux pas faire le résumé du spectacle, mais savoir que Dieu sait sur moi des choses que j'ignore, et qu'il me donne la place dans l'histoire, qu'il me fait comprendre pourquoi je suis là, pourquoi j'existe, d'où je viens, où je vais, et quelle est ma place dans ce monde. Le fait que, aussi, il soit capable de tout, c'est-à-dire capable par tout ce qui peut m'arriver de mauvais, comme pour Anne, de faire sortir des choses encore meilleures que si le mal ne m'avait jamais atteint. L'imperméabilité au mal, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que, avec le mal aussi, et parce qu'il est souverain, Dieu accomplit sa volonté. Et donc, savoir ça quand il m'arrive quelque chose que j'aurais préféré éviter, je sais que Dieu est souverain. Et je sais que il peut me réhabiliter plus haut que ce que j'aurais été si je n'avais pas été abaissé. Et puis enfin, savoir que, bien sûr, comme tous les êtres humains, je vais vers la mort. Moi, je, ben là pour le coup, oui. Mais que il est capable, il l'a promis, et il va le faire, de commander à la mort, pour que la mort me vomisse comme elle a vomi son fils qu'elle n'a pas pu garder. Alors ça, c'est un sujet de louange incomparable et infini. Alors, je vais faire mentir Luc, je voudrais que on chante un dernier chant, s'il y a encore des... Oui, tout le monde est là. Je voudrais qu'on chante un dernier chant dont je me suis dit qu'il avait la forme d'un psaume, vous savez, vous savez pas, enfin, si, vous savez, quand Jésus, au dernier repas, il y a un texte qui dit, après, ils ont chanté les psaumes. Alors, c'est pas n'importe quel psaume, c'est les psaumes 113 à 118, sachez-le, et les psaumes 113 à 118, ils commencent et ils finissent par Alléluia. Donc, je voudrais un chant qui commence, alors, par Alléluia en français, donc, qui s'appelle, donc, qu'on finisse par ça, qui commence et qui finit par la même phrase, c'est « Je loue ton nom éternel ». Voilà. « Seigneur, je célèbre ta bonté ». Ça vous parle, ça? Voilà. J'ai été un peu long, pardon.